Dans le cadre de nos émissions sur la pensée sociale de l'Église, Bernard Miguero poursuit la lecture de l'encyclique « Loué sois-tu ».
Bonjour. Dans la première émission, nous avons parlé de la situation de notre monde et du constat lucide que fait le pape François. Mais le pape nous a donné aussi une clé de lecture. D'abord, reconnaître que le monde et l'homme sont donnés par Dieu et doivent se recevoir de lui. L'idée de création qui est fondamentale. De la part de Dieu, c'est un acte d'amour, ce n'est pas un acte de puissance. Et le refus de reconnaître ceci est la cause de la crise que nous vivons. Voilà, c'était le message des deux premiers chapitres de Laudato Si. Nous allons maintenant aborder les deux chapitres centraux de l'encyclique. Le chapitre 3, la racine humaine de la crise écologique. Alors pour le pape, en effet, il ne faut pas s'arrêter aux symptômes, mais aller aux causes profondes de la crise. Aller jusqu'aux causes d'origine de cette crise. Et le chapitre 4, qui pour remédier aux causes de la crise environnementale, de la grave crise que nous vivons, que vit le monde aujourd'hui, définit les contours de ce que pourrait être une écologie intégrale. Donc nous allons essayer de suivre le mouvement de ces deux chapitres qui sont vraiment essentiels pour la compréhension du texte. Le chapitre 3 sur la racine humaine de la crise écologique est sans doute le cœur de Laudato Si. Alors une phrase qui frappe dans l'introduction, je cite « Il y a une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à lui nuire. » Ensuite, du numéro 102 au numéro 105, le pape va parler de la technologie et il va reconnaître deux facettes à la technologie, la créativité d'un côté et le pouvoir de l'autre. Et il souligne d'abord les aspects positifs de la technologie. Je cite, « La modification de la nature à des fins utiles est une caractéristique de l'humanité depuis ses débuts. La technologie a porté remède à d'innombrables maux qui nuisaient à l'être humain et le limitaient. » Mais le pape souligne aussi le pouvoir inouï que donne la technologie à ceux qui la détiennent, surtout aujourd'hui. La montée de la technologie a été véritablement exponentielle au XXe siècle et continue à notre siècle. Voilà ce que dit le pape quand il parle des technosciences. Elles donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien, surtout si l'on considère la manière dont elle est en train de l'utiliser. Voilà, et ce constat amène de la part du pape François des réflexions importantes. Je cite le numéro 105 de l'encyclique. On a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi progrès. Retenez bien ce mot de progrès. Un degré plus haut de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs, comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Le fait est que l'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir, parce que l'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Le pape exprime alors son inquiétude. En ce sens, l'homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, mais nous pouvons affirmer qu'il lui manque aujourd'hui une éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide, dont la technologie, créativité d'un côté, mais aussi pouvoir et dérive du pouvoir, de la puissance de l'autre. L'homme démiurge. En résumé, progrès technique, mais sans maturité humaine, éthique, spirituelle, sans contrôle. Alors, pourquoi un tel déséquilibre ? Le pape y voit une cause principale. Il parle de la globalisation du paradigme technocratique. Alors, ce mot de paradigme, le paradigme, qu'est-ce qu'on entend par paradigme ? Le paradigme, c'est un système global d'interprétation. Et dans ce cas-là, donc on comprend que c'est la technocratie qui fournit à l'humanité d'aujourd'hui son système global d'action et d'interprétation du monde. Alors, on est au cœur de l'encyclique. Là. Le numéro 106 est capital. Il faut en citer quelques extraits. Le problème fondamental est autre, encore plus profond. La manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. Une conception du sujet y est mise en relief qui progressivement, dans le processus logique et rationnel, embrasse et ainsi possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. Possède, je souligne ce mot. Ce sujet se déploie dans l'élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation qui est déjà explicitement une technique de possession, je souligne le mot possession, de domination et de transformation. C'est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d'informe, totalement disponible pour sa manipulation. Voilà, alors comprenons bien le pape François, il ne remet pas en cause la science et la soif légitime de connaître. Ce qu'il dénonce là, c'est la déviation vers la possession, la domination, la manipulation. Finalement, la science, la méthode expérimentale, donne à l'homme un outil formidable de savoir, mais aussi d'action sur la nature, d'intervention, et il est libre de l'utiliser de manière abusive, et c'est malheureusement souvent ce qui se passe aujourd'hui. Donc le pape nous dit, maintenant en revanche, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses par l'imposition de la main de l'être humain qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. L'homme tout-puissant qui oublie les limites, qui oublie de se donner des limites. Voilà, le pape veut nous dire, c'est ce qui est au cœur, finalement, de la crise que vit le monde aujourd'hui. Et de là, on en vient facilement à l'idée d'une croissance infinie ou illimitée qui a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers et de technologues. Vous voyez, on est de suite dans le monde de l'action, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'économie, dans le monde des choix économiques et donc des choix politiques. Et le pape poursuit, c'est le faux présupposé qu'il existe une quantité limitée d'énergie et de ressources à utiliser, que leur régénération est possible dans l'immédiat et que les effets négatifs des manipulations de l'ordre naturel peuvent être facilement absorbés. Autrement dit, nous oublions, fort de ce pouvoir que nous donne la science, la technique, les technosciences, nous oublions les limites de notre planète, nous oublions que nous sommes sur une planète qui a des limites. Et le pape nous dit que cette prédominance du paradigme technologique va conditionner l'homme et la société. Je poursuis mes citations. On peut dire par conséquent qu'à l'origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance pas toujours consciente à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Les effets de l'application de ce moule à toute la réalité humaine et sociale se constatent dans la dégradation de l'environnement, mais cela est seulement un signe du réductionnisme qui affecte la vie humaine et la société dans toutes leurs dimensions. Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas neutres parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes de pouvoir déterminés. Et pour boucler la boucle, ce paradigme conditionne l'économie et la politique. Le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l'économie et le politique. L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Les finances étouffent l'économie réelle. On ne s'aperçoit plus des limites, on les refuse. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose qui est effectivement lié depuis la technologie, les technosciences et leurs applications dans le domaine concret, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Et à partir de là, le pape va dénoncer deux dérives très graves. C'est d'une part la foi sa limite dans le progrès en disant que l'économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. Autrement dit, la technique qui crée, qui amène ces problèmes, va contribuer aussi à résoudre ces problèmes. Et de même, on affirme en matière économique que finalement, le mieux est de laisser faire et que le marché, tout seul, va réguler les questions, va entraîner de nouveaux équilibres et va résoudre les problèmes que nous connaissons. Et à travers ça, le pape nous dit que l'homme perd le sens de la totalité. La vie est en train d'être abandonnée aux circonstances, conditionnée par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Le paradigme technologique a enfermé l'homme dans une logique rationnelle et unidimensionnelle, réductrice, à la base d'une profonde crise sociale et écologique dangereuse pour nous et les générations futures. Et le pape François nous dit, il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui pour constater aussi de profondes insatisfactions. Les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux. Ils ne mettent pas aveuglément leur confiance dans un lendemain meilleur à partir des conditions actuelles du monde et des capacités techniques. Ils prennent conscience que les avancées de la science et de la technique ne sont pas équivalentes aux avancées de l'humanité et de l'histoire, et ils perçoivent que les chemins fondamentaux sont autres pour un avenir heureux. Et par rapport à cette situation, le pape nous dit qu'il est difficile de réagir parce que l'humanité s'est profondément transformée et l'accumulation des nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous mène dans une seule direction à la surface des choses. Il devient difficile de nous arrêter pour retrouver la profondeur de la vie. Mais le pape François croit à la possibilité d'une réaction. Il est possible d'élargir de nouveau le regard et la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l'orienter, comme de la mettre au service d'un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral. Le pape s'attache ensuite à approfondir les conséquences du paradigme technocratique et à mettre l'accent sur quelques domaines où une réflexion et une réorientation seraient urgentes. On les trouve sous le titre « Crise et conséquences de l'anthropocentrisme moderne ». Le mot « anthropocentrisme » est important. L'anthropocentrisme, l'homme, cela veut dire « l'homme au centre de tout ». Parlant des conséquences de l'anthropocentrisme moderne, le pape François continue à cerner les conséquences de ce qu'il a dénoncé. Il nous dit « L'anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité. » parce que l'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. L'homme va jusqu'à perdre le sens de la nature. De cette manière, la valeur que possède le monde à lui-même s'affaiblit. Et pour redécouvrir, pour retrouver justement le sens des choses, l'encyclique nous dit « C'est pourquoi le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose. » Le pape François affirme alors avec force que rien n'est possible si on ne met pas l'homme au centre. Mettre l'homme au centre, mais à condition de bien définir sa place. Cette situation nous conduit à une schizophrénie permanente qui va de l'exaltation technocratique qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur propre à la réaction qui nie toute valeur particulière à l'être humain. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'humanité, il n'y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Autrement dit, c'est l'homme qui est à l'origine de la crise écologique et environnementale que nous vivons, et c'est l'homme qui a les clés de la sortie de cette crise. À condition, bien sûr, qu'il retrouve une ligne directrice, qu'il retrouve le sens des choses, qu'il retrouve une visée. La dimension collective et transcendante est affirmée comme primordiale par le pape François. Je le cite au numéro 119. C'est pourquoi, pour une relation convenable avec le monde créé, il n'est pas nécessaire d'affaiblir la dimension sociale de l'être humain ni sa dimension transcendante, son ouverture au tu divin. En effet, on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Tout cela demande de lutter contre ce que le pape François appelle le relativisme pratique. Il nous dit « Quand l'être humain se met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance et tout le reste devient relatif. Par conséquent, quand il n'est pas étonnant que, avec l'omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir humain sans limite, se développe chez les personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance. Il y a en cela une logique qui permet de comprendre comment certaines attitudes qui provoquent en même temps la dégradation de l'environnement et la dégradation sociale s'alimentent mutuellement. Vous trouverez cette phrase au numéro 122. C'est cette absence de limites et de repères éthiques qui sont à la racine de nombreux maux de l'humanité. Exploitation des personnes, trafic divers, marchandisation de l'homme et de la vie, détérioration de la noblesse du travail humain. Du numéro 124 au numéro 129, si vous lisez l'encyclique, vous verrez que le pape rappelle la nécessité de préserver le travail et son rôle essentiel pour l'équilibre et la dignité de l'homme. De même, il souligne le respect dû à la vie et la nécessité d'un grand discernement dans tout ce que permettent la biologie et les sciences de la vie. Maintenant que le pape François a cerné la racine de la crise actuelle et ses principales manifestations et conséquences, il peut, à partir de là, ouvrir des perspectives et donner les contours de ce qu'il appelle une écologie intégrale. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Qu'est-ce que l'écologie ? Qu'est-ce que le pape François entend par écologie intégrale ? Alors il nous dit, l'écologie intégrale est à la fois environnementale, économique et sociale. Finalement, il nous dit, l'écologie, il ne faut pas la limiter à la protection des espèces, à la protection de la nature. C'est très bien et c'est certainement la première chose à faire et fondamentale. Mais aussi, il faut que finalement un état d'esprit écologique, finalement, pénètre petit à petit tout ce qui est économie et tout ce qui est social, finalement tout ce qui est humain, l'homme et l'humanité dans toutes les dimensions de la vie et du développement. Rappelez-vous, au début, le pape nous a dit « Tout est lié, la nature et la société qui l'habite. La nature n'est pas séparée de nous. » Et au numéro 139, le pape François nous dit « Il n'y a pas deux crises à séparer, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » Et il nous dit de nous appuyer sur les écosystèmes. Dans les écosystèmes, tout est en équilibre et finalement, l'homme doit faire écosystème quelque part avec la nature. Et à partir de là, le pape dénonce le rôle réducteur de l'économie dont le seul objectif est de réduire les coûts. Il en appelle donc à une écologie économique qui ne se limite pas aux coûts et aux profits. Et il en appelle aussi à une écologie sociale. Si tout est lié, nous dit-il, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine. Toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement. Dans ce sens, l'écologie sociale est nécessairement institutionnelle. On trouve ceci au numéro 142. Et le pape va jusqu'à parler d'une écologie culturelle. L'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité. C'est la culture, non seulement dans le sens des monuments du passé, mais surtout dans son sens vivant, dynamique et participatif, qui ne peut pas être exclue lorsqu'on repense la relation de l'être humain avec l'environnement. Nous est-il dit au numéro 143. Encyclique appelle alors l'attention sur les atteintes portées aux cultures arborigènes, fragiles et au risque de leur disparition, aussi grave que la disparition des espèces. Et en diversifiant son propos, le pape François évoque l'écologie de la vie quotidienne. Le pape parle du cadre de vie. Le mot est important, ce mot cadre de vie, être attentif à notre cadre de vie, la nécessité d'un urbanisme pensé pour l'homme, l'influence de la qualité des transports sur la vie des gens. Et enfin, le pape François va jusqu'à évoquer l'écologie humaine et l'écologie de son propre corps. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Pour lier toutes ces facettes de l'écologie intégrale, il est impératif de prendre en compte un des principes directeurs de la pensée sociale de l'Église, le bien commun. Et dans le contexte du monde actuel, le pape François résume ainsi l'enjeu de son plaidoyer pour une écologie intégrale. Je le cite. Dans les conditions actuelles de la société mondiale où il y a tant d'inégalités, où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et une option préférentielle pour les pauvres. Et finalement, le pape François, j'allais dire, en fait, le test principal finalement de l'évolution, il nous dit finalement, on mesurera les progrès faits par rapport à la crise environnementale si on voit s'améliorer le sort des pauvres du monde. Et il y a dans ce domaine beaucoup à faire. Et en terminant le chapitre, le pape souligne l'impératif de deux solidarités, une solidarité entre les générations et une solidarité à l'intérieur de notre génération actuelle. Voilà.